bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, on est ravis de vous retrouver avec Leïla Kaddour.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tanguy Passureau sera tout à l'heure, Albert Algou est déjà là.
Bonjour.
Et notre invité, Monsieur Michel Bussy.
Bonjour
Michel Bussy, bienvenue.
Bonjour.
À ce micro, c'est votre première bande originale.
Ah, complètement, oui.
Première, très bien.
Un peu nerveux.
Faisons tous.
Très nerveux.
faisons tous.
Et rencontrer Nagui en chair et en os.
C'est ça.
Mais c'est vrai, je ne rate pas les émissions avec ma fille depuis au moins 10 ans. Elle a 10 ans et depuis qu'elle est née, elle regarde Nagui.
Ah bah, ça me touche beaucoup.
Toutes les émissions.
On a tous grandi.
Elle est complètement folle de savoir que je vais vous rencontrer.
C'est vrai?
Oui, vraiment.
Vous pourriez avoir une fille de 50 ans, vous auriez pu dire la même phrase.
Michel Bussy, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires vous avez vendu, si on cumule tous vos romans, vous avez une idée, vous?
À peu près à 8, ouais, 8 millions.
8 millions, c'est incroyable, c'est formidable et c'est mérité parce que quand on rentre dans l'intrigue, on n'a qu'une envie, même s'il y a 480 et quelques pages, on s'en rend pas compte, on y va et on voyage, c'est vraiment le terme, encore plus avec J'ai dû rêver trop fort, on voyage avec Nati, on est dans cette famille, on est avec avec les potes, avec Jean-Max et Flo, les potes
navigant,
de voyage, ouais. Voilà, de chez Air France. On est évidemment avec Iliane, un amour d'il y a 20 ans. On est évidemment avec Olivier, son mari, qui l'attend à la maison avec ses deux enfants. On est totalement dans ce cadre familial, mais aussi avec une intrigue. Une véritable intrigue, qu'elle soit psychologique ou policière. On va en parler dans quelques instants avec vous. Le roman est publié chez les presses de la Cité. Mais d'abord des questions concernant justement Michel Bussy. La première histoire que Michel ait écrite à l'âge de 6 ans mettait en scène des personnages, mais quel genre de personnages?
Des animaux.
Non.
Des extraterrestres.
Des monstres.
Non. Des égyptiens.
Non. Des anges.
Sa famille.
Non. Il avait 6 ans.
Des nains.
Non.
Ah, des héros, des gens qui voyaient à la télé, ou des gens nounours.
Des schtroumpfs.
Des personnalités connues, des footballeurs,
des marionnettes.
C'est un genre. Donc ça peut être un genre comme un film ou comme un feuilleton.
Un dessin animé.
Fantastique, horreur.
Cartoon.
Fantastique.
Le genre, cherche encore le genre. Pas le support, le genre.
Policier.
Non.
Des indiens.
Des super-héros.
Oui.
Des westerns.
Oui, exactement. Les cow-boys et les indiens, c'était ça vos histoires?
C'est vrai, alors je me rappelle pas, j'habitais dans un petit village, donc j'allais chercher le lait à la ferme, ça fait très, mettons, dans la prairie, et je me rappelle simplement, j'ai ces flashs-là...
Avec les bouteilles en verre consignées qu'il fallait rapporter?
Alors non, c'était les brouhallés en fer, en fait.
Ah d'accord,
ah, oui.
Encore,
ah, oui.
Encore pire.
Non mais encore plus écolo, pas de plastique.
Ah, oui. Et donc je me rappelle effectivement que j'avais trois héros comme ça, qui étaient dans un univers de western, j'avais au moins une vingtaine ou une trentaine d'épisodes, et j'en ai évidemment rien gardé du tout, si ce n'est qu'il y avait trois, je crois qu'il y avait deux hommes,
dommage.
Et une femme, et voilà.
C'est dommage, non,
un peu genre Mystère de l'Ouest en visiter, quoi.
Et il y a pas un cahier qui traîne quelque part, il y a rien?
Non, c'était un mélange de Mystère de l'Ouest et de Chasse au trésor.
Non, mais vous imaginez, même pour vos enfants, enfin, retrouver les cahiers d'école ou les cahiers d'histoire, c'est marrant. Non,
ouais, puis ça, c'est des choses. J'ai toujours raconté des histoires à mes enfants quand j'étais petit, quand j'avais 3-4 ans, mais c'était très oral. Donc, en fait, tout ça s'est perdu aussi. J'ai quelques bribes, mais parce qu'ils avaient 3-4 ans, quoi.
Des histoires que vous inventiez toujours.
Ouais, qu'on inventait soir après soir, mais ça se perd. Mais c'est beau aussi l'histoire qu'on raconte et qui se perd, parce que voilà, on en garde 2-3 choses. Et il y a une part dans le conte aussi on l'invente pour un soir, et puis après,
ça s'envole.
Ça s'envole, ouais, exactement.
C'est comme la magie de Nagui, quand on le regarde à la télé, on se souvient de lui, mais on sait plus ce qu'il a dit.
C'est gratuit,
c'est gratuit. Bon, c'est une agression gratuite.
C'est pas une agression, c'est un hommage à votre présence scénique.
C'est ça. Appelez-moi le commissariat de France Inter. Michel Bussy a hésité entre professeur de géo et de français. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'il a choisi géo, pourquoi n'a-t-il pas choisi français?
L'orthographe?
Non.
Les copies à corriger, un peu longues?
Non.
Non, mais justement, pour garder ça comme un plaisir, pour pas être...
Non. Il y a un truc qu'il n'aime pas dans l'enseignement français.
Les accents.
Donc dans la langue
la
française.
La conjugaison,
les dictées.
L'orthographe, la grammaire.
La grammaire, exactement. La grammaire. Vous n'aimez pas la grammaire?
Non, c'est-à-dire quand j'ai hésité entre faire preuve de français ou faire preuve d'histoire géo, parce que après le bac, je me voyais prof de collège ou de lycée. C'est vrai que autant prof d'histoire géo, je me trouvais que c'était super sympa parce qu'on pouvait essayer d'intéresser les élèves. Alors prof de français, je me voyais très bien essayer de faire lire mes élèves, ça me passionnait, mais l'essentiel, c'était quand même de leur apprendre à mettre des S au bout des pluriels et de leur faire des dictées. Et ça, je trouvais ça absolument horripilant. Et je me suis dit, voilà, être prof de français pour passer 70% de mon temps à faire des dictées et éventuellement un petit peu de temps pour leur essayer de les faire lire. Je me suis dit non.
On peut truander. Moi, j'étais prof 12 ans, je faisais presque pas de grammaire. Alors, et je faisais lire les élèves.
Oui, mais je connais plein de profs de français qui
ils sont aujourd'hui.
Moi, je faisais beaucoup de grammaire, mais j'essayais de l'aborder comme un jeu. C'est une enquête qu'on mène pour trouver des indices. Ouais. Pour mettre le verbe à la bonne personne, pour accorder...
Oui, le complément d'objet.
Mais oui, il faut chercher.
Est-ce que vous dites professeur d'histoire géo, hors de question pour vous d'être professeur d'histoire géo?
Bah, moi, je suis entré pour être prof d'histoire géo comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui se destinent à être prof. Et en fait, à l'université, on fait histoire ou géo.
J'entends, mais au début, il y avait quand même la notion de histoire géo. C'était pas
forcément parce que je me voyais passer le CAPES et finir en collège ou en lycée. D'accord. Et puis, il se trouve que les études sont pas mal passées et puis qu'on m'a proposé de continuer de faire de la recherche en géographie.
Ne soyez pas modeste.
Et du coup, je suis resté parce qu'à l'université, on est prof que de géographie.
Malgré son immense succès mondial, Michel Bussy n'a jamais changé de
numéro de téléphone, de mail, d'adresse, de mail, d'adresse, de téléphone,
d'adresse.
Oui.
Je
de
prends l'adresse.
De maison.
Ouais. Il n'avait jamais déménagé.
Non. En tout cas, pas depuis que je m'en délivre.
Enfin, vous avez quand même racheté l'immeuble. Même adresse.
Il a gardé la même adresse. Il a acheté la ville. Comme ça, c'est tranquille.
Non, mais ça prend super du temps de déménager. Et moi, le temps, j'essaye de le consacrer à écrire. Donc
oui,
c'est
mais
un truc qui me fait peur.
Vous n'avez pas voulu profiter, je ne sais pas, d'un confort supplémentaire, je sais pas si c'est une maison ou un appartement, ça ne nous regarde pas, mais de plus d'espace,
mais j'étais pas à la rue non plus avant. Donc ça se passait très bien. Puis c'est vrai qu'une espèce de fuite comme ça, quand on fait un roman, on a envie de faire le suivant, le suivant. Et puis du coup, on est très bien chez soi et on se dit
pourquoi bouger.
Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup déménagé dans ma vie et ça me fait un peu peur, les cartons, les trucs. Enfin, c'est un temps infini.
C'est une grande cause de dépression, le déménagement.
Je pense, ouais.
C'est
de divorce.
Ah, bah oui, si tu pars pas avec l'autre.
Ça s'appelle comme ça. Michel Bussy a inventé Brutus. Mais qu'est-ce que Brutus?
Un chien.
Non.
Une méthode, logiciel de roche, un logiciel qu'on utilise en géo.
Alors,
une méthode.
Méthode d'enseignement, d'apprentissage, de trucs mémotechniques.
Fais un effort, Marina, tu y es presque. Dans la main.
Un logiciel mémotechnique.
Non,
un
pas
logiciel
du tout. Ouais, c'est tout le temps. Inventer Brutus. C'est quoi?
Mais Brutus, c'est un acronyme, ça veut dire quelque chose.
C'est une boîte, une société, non?
Ça pourrait.
La moitié de la réponse.
Ça pourrait.
C'est une invention qui est passée chez, je sais pas, au truc Lépine, concours Lépine, qu'il essaie de breveter et de commercialiser.
C'est une invention, mais sers-toi du mot société.
Un jeu de société.
J'allais dire un escape game.
Non, c'est un jeu de cartes même. Mais c'est le trou du cul.
C'est le trou du cul, le président, voilà, mais revisité avec plein de cartes spéciales. Non, j'adore les jeux de société depuis que je suis
tout petit. En quoi sont-elles spéciales? Ce sont des empereurs romains, c'est.
Ouais, mais surtout il y a des pouvoirs parce que ceux qui connaissent le jeu du président ou du trou du cul, il faut se défausser de toutes ces cartes. Et là, il y a plein de cartes spéciales qui permettent de revisiter le jeu et de le rendre plus intéressant, plus interactif, plus tactique. Et donc c'est avec un copain qui édite des jeux et on se connaît.
Donc il existe. Il est en vente libre, Brutus.
Brutus, ouais, il est en vente libre dans toutes les magasins de jeux, en fait. Et voilà, donc ça, c'est une passion. On continue d'essayer de développer
d'autres jeux,
ouais.
D'accord. Et à partir de jeux de cartes, ou ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des quiz, ça peut être autre chose.
Alors, on est en train de préparer un quiz qui s'appellera Best-seller pour les éditions Marabout. Donc, c'est un truc très culture populaire autour des best-sellers avec Fred Bizet, donc l'éditeur de jeux. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux très simples, les jeux de cartes, les jeux d'apéro. Comme on dit, donc le truc, on explique les règles en 2 minutes et après on joue pendant des heures.
Non, puis le président.
Plutôt que le jeu de plateau où il y a 10 heures de règles.
Que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde peut jouer au président. Le seul défaut, c'est qu'il faut être minimum 4, je crois, non?
Ouais, il faut être 4.
Ouais, parce qu'à 3, c'est moins drôle, ouais.
On peut être 4, par contre, on peut être quasiment 15 à y jouer. Donc,
À 11 ans, Michel Bussy lit Les 10 petits nègres. Ça lui fait tellement peur qu'il fait quelque chose de surprenant.
Finit fait... pas, il arrache les pages.
Non.
Fait pipi de peur.
Non.
Fugue.
Non.
Dipinègre.
Il lit les Dipinègres.
Il brûle le livre.
Et il a tellement peur.
Il écrit la suite.
Non.
Il la raconte à quelqu'un d'autre.
Il change la suite. La fin.
Il change la fin.
Non, mais ça a un rapport avec la fin.
Il lit pas la fin.
Il lit deux fois la fin.
Il change la fin.
Non.
Il la transforme.
Il recommence de le lire.
Il lit le livre à la fin.
Il commence,
oui,
par la fin.
Exactement. C'est-à-dire qu'il va tout de suite lire la fin tellement il a peur. Il va immédiatement lire la fin plutôt que d'éviter. C'est pour ça que chez Fessine, c'est de l'inverse que d'éviter la fin. Oui, bien joué, Albert Algout.
Ouais, je crois que c'est le seul livre où j'ai lu la fin avant de conduire.
Et si on faisait ça avec vos livres?
Ouais, et certains le font. Et ce qui est génial dans Les Dipinègres, c'est que j'ai lu la fin. Et je me suis dit, c'est pas possible. Parce que je l'ai lu très vite, en fait, en me disant, j'ose pas, c'est le truc qu'on fait comme ça. Pourtant, j'étais tout seul dans mon lit, mais. Et puis, j'ai lu très vite. Et puis après, je me suis dit, non, t'as dû rêver, ça peut pas être ça. Ça peut pas être cette fin-là. Donc, ouais. J'ai lu tout le livre en me disant, non, mais t'as dû lire trop vite. Et en fait, c'était vraiment ça. Je dis pas pour ceux qui l'ont pas lu qui est le coupable dans Les Dipinègres, mais c'est tellement bien foutu que même quand on lit la fin, on se dit,
C'est pas possible. Une expression qu'apparemment vous aimez beaucoup, vous l'avez dite deux fois à l'instant, j'ai dû rêver.
J'ai crevé l'oreille.
J'ai dû rêver trop fort, c'est de cette chanson, on imagine, puisque le livre est très musical. Michel Bussy, c'est peut-être le plus musical que vous ayez fait, avec l'un des héros, Ilian, est un musicien, un guitariste, charmeur de serpent, ou comme joueur de flûte, ouais, c'est ça. En tout cas, charmant d'hôtesse de l'air. Mais non, il attire aussi les chats, il attire aussi différents personnages à lui, voire le public, en tout cas les gens dans la rue, s'arrête lorsqu'il fait la manche ou lorsqu'il chante aux terrasses des cafés ou dans des halls d'hôtels. J'ai dû rêver trop fort. Pourquoi avoir pris cette phrase de Bachung, la mettre en exergue? Parce que dans les paroles de chansons, beaucoup d'autres paroles pourraient représenter cette histoire dingue dans la vie de Nathalie.
Ouais, alors c'est vrai que depuis que j'ai pris un peu l'habitude de prendre des paroles de chansons pour faire les titres de romans, ouais. Quand j'écoute des chansons, je me dis tiens, cette phrase pourrait faire un joli titre. Alors évidemment, la majorité n'en feront jamais. Et c'est vrai que ce début, j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort, j'ai toujours trouvé ça sublime, quoi, de démarrer une chanson comme ça. Alors, les paroles de Vertige de l'amour, après, elles sont pas faciles. Si on donnait ça au bac, ça serait pas facile à décrypter. Mais, voilà, la première parole était géniale. Donc, et puis, j'ai dû rêver trop fort. Tout de suite, c'était la première personne. Et puis, il y avait cette idée du rêve, puisque dans ce roman, on est très vite dans quelque chose qui peut apparaître surnaturel. Mon héroïne, elle se demande si elle n'est pas en train de rêver, parce que les coïncidences, l'entourent.
Elle revit les mêmes événements.
Et voilà, ouais. Je voulais que le lecteur.
À 20 ans. Oui, ouais, il faut préciser. À 20 ans d'écart, tout ce qui s'est passé, elle n'a trompé qu'une fois son mari avec une histoire d'amour, il y a 20 ans, en 99, et le livre ne fait que aller et venir entre 99 et 2019 avec des parallèles, des situations, des rencontres, des musiques qui sont les mêmes 20 ans après, et c'est extrêmement troublant, et elle se demande si c'est d'ailleurs une manipulation, si elle pète un câble, si elle rêve justement.
Si elle rêve trop fort.
Voilà, ou si c'est vraiment l'histoire qui se répète.
Voilà, donc c'était exactement ça, je voulais qu'on soit dans le rêve, et puis voilà, puis crever l'oreiller parce qu'on a rêvé trop fort, c'est quand même joli, quoi.
Il y a un concert qui va compter, puisque c'est le concert de la rencontre. Un concert où il n'aurait pas dû, elle ne pouvait pas y assister, pas de place, il faut passer par un mec de sécu, on rencontre un technicien qui aide justement, qui passe ses guitares à Robert Smith, c'est Ilian. Nathalie se retrouve avec les cures d'abord à bord de l'avion, à bord du vol Paris-Montréal. Et se retrouve à ce concert avec cette première chanson Charlotte Sometimes et tous les autres succès des Cures. Ah, c'est un roman très musical. Hein. Alors vous êtes auteur, vous êtes Dieu dans cette histoire. Pourquoi choisir les Cures comme premier concert?
Déjà c'est un grand groupe. Déjà c'est le groupe de ma jeunesse. Et puis chercher un groupe qui tournait encore, fallait qu'il tourne encore et qui soit très identifiable fin des années 80, années 90. Et Cure m'est apparu tout de suite. Et puis il y a le look aussi de Cure. Il y avait Robert Smith. Enfin, j'ai toujours trouvé très drôle qu'il y ait un type qui s'appelle Robert Smith. Enfin, c'est le nom. On a l'impression que c'est un nom
de
banalité.
C'est une
espèce de héros comme ça. Incroyable. Donc tout marchait bien. Et puis il y a un vrai amour. Je trouve que là, on a écouté quelques tubes, mais c'est quand même intemporel. Et c'est vrai que Cure, en plus, moi, quand je l'ai fait écouter à ma fille, elle me disait, parmi tous les trucs des années 80, c'est un des trucs qui a pas vieilli quand même. Ça fonctionne encore très très bien, quoi. Et Charlotte Sometimes, qui est peut-être leur plus belle chanson, quoi.
Ah, si je peux me permettre, Police, quand même. Parce que Sting a un nouvel album là qui arrive. Ah, ouais. Donc il est toujours là, lui. Hein. Police présent également, et aussi les Beatles. Il y a toujours ce... Le piano de Let It Be qui plane. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Qui est en sonnerie portable ou pas? C'est lui, je sais plus.
Il y a une sonnerie portable. Oui, Liane le met sur sa sonnerie portable.
C'est ça. J'ai eu chaud là. Ouais, c'est une bouffée de chaleur qui m'est montée.
Il y a tellement de titres.
Mais oui, c'est une chanson sur c'est un roman sur la musique et puis sur ce côté fédérateur de la musique qui fait qu'évidemment, Let It Be, on l'écoute aux quatre coins de la planète de la même façon. Ça,
à la différence que les Beatles ne sont plus en tournée alors que Cure, ils seront à Rock en scène à la fin de cet été. À Paris.
Et puis comment la musique vient marquer nos vies, des moments particuliers, comment on associe tout d'un coup un amour, une odeur.
La bande originale de notre vie.
La bande originale de notre vie.
J'ai écrit ce roman uniquement pour passer à la bande originale.
Vous êtes donné les moyens, c'est bien, bravo.
Ça va se voir. Votre volonté était d'avoir une histoire d'amour, une sorte de faire votre Roméo et Juliette sur une toile de fond de suspense et d'angoisse presque.
Ouais, il y avait ça. Alors plus que Roméo et Juliette, c'était plutôt sur la route de Madison, par exemple sur la route de Madison ou dans Brève Rencontre ou ces films-là, toujours les héroïnes elles disent dans 20 ans j'aurais tout oublié, je me serais peut-être même dit c'était pas moi qui ai vécu cette histoire passionnelle et je veux pas ça. Je veux pas penser que dans 20 ans je serais redevenu normal et que voilà. Et c'était une des idées de me dire tiens effectivement si l'héroïne on la transporte tout de suite 20 ans après et qu'elle est en miroir avec cette femme passionnée qui arrive pas à quitter cette histoire d'amour, puis 20 ans après elle s'est rangée, le temps a fait son effet et elle se regarde un peu comme une folle, cette femme 20 ans avant. Je trouvais que c'était très beau de passer de l'un à l'autre en permanence parce qu'elle se regarde et on n'ose pas imaginer évidemment qu'une histoire d'amour s'arrête, on n'ose pas imaginer le moment où l'histoire d'amour ne sera plus qu'un petit souvenir banal
on
se dit d'ailleurs que c'est pas possible.
Ouais. Donc c'est la première histoire entre guillemets qui soit venue à votre esprit, c'est l'histoire d'amour.
Oui, c'était vraiment ça. Et après, quand j'ai attrapé cette histoire des coïncidences, donc cette idée que quand, en gros, on est une histoire d'amour, qu'on n'arrive pas à oublier, et ben on va revoir l'être aimé un peu partout, dans une chanson qui passe à la radio, dans une conversation, dans une gare. Je me suis dit, si ces coïncidences qu'on invente, elles deviennent tellement fortes qu'on se dit, c'est pas moi qui les invente, c'est une espèce de machination, ou alors je deviens parano. Mais si là, on passe de la passion amoureuse au thriller. Et ça devient quelque chose qui va être extrêmement à la fois addictif en termes de thriller et extrêmement émouvant parce que c'est une histoire d'amour.
Mais ce qui est fort, c'est vrai que la phrase qui est dite dans votre livre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vrai aussi que lorsque on est dans un état d'esprit particulier ou dans une hypersensibilité particulière, on voit des signes partout. On repère quand une femme tombe enceinte, elle a l'impression de voir des femmes enceintes partout. Quand on est triste ou qu'on a été abandonné par une personne qui ressemble à un tel ou un tel, on en voit d'autres partout qui lui ressemblent et on voit des signes. Ouais. On se dit, il a pas dit cette phrase par hasard, je suis rentré dans telle pièce, il y avait cette musique, ça veut dire ça. Et on se construit aussi. Et là, on peut devenir, je ne sais pas si c'est parano, si c'est mytho, si c'est malade, mais on peut se créer un monde imaginaire aussi.
C'est exactement folle. Ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, surtout au moment du début du livre, où effectivement, elle se dit, tiens, j'entends une phrase, et on dit, c'est pas possible, elle est prononcée pour moi. Et puis elle se raisonne en disant non, mais autour de moi, j'aurais pu voir des tas d'autres choses.
Elle entend des passagers dans des avions qui
rappellent des phrases qui se sont prononcées dans l'intimité. Donc elle se dit, il n'y a que moi qui les connais.
Et qui ne peuvent pas, ne peuvent pas connaître. Elle dit, mais c'est pas possible. Il ne me l'a dit qu'à moi. Comment la même phrase, qui est une forme de poésie ou de parole de chanson, comment peut-il se retrouver là? C'est pas possible. Ou alors, est-ce qu'il l'a dit ou est-ce que je l'ai rêvé? Table bancale, ça, c'est joli cette histoire.
C'est beau ça, la table bancale. Faut expliquer. Quelle est la probabilité pour que, à 20 ans d'intervalle, la première rencontre se fasse dans un endroit un peu improbable qui est à Montréal, et que la table soit bancale, et revenir 20 ans plus tard quasi dans ce même endroit et s'accouder à la table et voir qu'elle est bancale et se dire c'est fou, il y a une machination, c'est plus possible de voir autant de signes partout.
Alors il y a des études statistiques, hein. 80% des tables sont bancales.
Non, les tables ne sont pas bancales, ce sont les sols qui sont mal faits. Voilà. C'est juste ça.
Mais c'est amusant parce que moi, par exemple, souvent, par exemple, il y a des lecteurs qui vont m'écrire en me disant, mais c'est incroyable parce que je suis né à Montréal et puis après j'ai passé mon enfance à Jakarta. Enfin, on a comme ça des coïncidences terribles et je suis obligé de leur dire, mais non, mais je vous connais pas, je vais pas écrire le roman pour vous. Mais sûr, évidemment, le million de gens qu'on lu, il y a toujours forcément quelqu'un qui va avoir une dizaine de coïncidences absolument incroyables. Et même moi, je suis trop parce que, alors soit ils me mentent, mais voilà. Et donc, mais c'est simplement le jeu des coïncidences qui fait que mécaniquement, évidemment, on va retomber sur des gens qui ont le même prénom. Par exemple, là, il y a Ethan et Noé qui sont les deux jumeaux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant mes deux enfants s'appellent Ethan et Noé.
Mais c'est
incroyable, vous me connaissez. Je dis, je suis désolé, je ne vous connais pas.
On peut comprendre que ce soit troublant pour un lecteur d'avoir ces deux enfants mis en scène sous votre plume. Ça, c'est.
Oui,
c'est
puisqu'en plus, après, on peut toujours expliquer les coïncidences parce qu'évidemment, on peut se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va lire le livre et puis le donner à la personne qui connaît parce qu'elle sait que ses enfants s'appellent ainsi, etc. Donc, les choses ne viennent jamais par hasard, mais par rendez-vous.
Il n'y a pas eu de demande de reconnaissance en paternité.
Il y a dans ce roman beaucoup de voyages, vous l'avez dit, puisque Nathalie est hôtesse de l'air, ce qui fait qu'elle... entre guillemets, quitte souvent son mari, et justement, lui, il est charpentier, menuisier, voilà, il travaille le bois, il aime fabriquer des meubles, il y a toujours ce côté, je pars pour mieux revenir, et au fur et à mesure, d'ailleurs, on voit la fragilité qu'il peut y avoir aussi dans ce genre de vie. À propos des voyages et de cette hirondelle qui est sur la couverture de votre livre auprès de la Cité.
Et qui ponctue les
chaque page.
Les pages.
Exactement. Il y a la pierre aussi.
Il y a le galet.
Ouais. La description des lieux. Alors là, on retrouve le professeur d'histoire géo, j'ai l'impression, parce que j'ai le sentiment d'avoir voyagé. J'ai jamais vu Los Angeles, mais j'ai lu le livre, j'ai l'impression d'y avoir été. J'ai déjà eu la chance d'aller à Barcelone. J'ai reconnu le parc Güell. J'ai reconnu les Ramblas que vous décrivez d'une manière incroyable. Vous êtes allé dans tous ces endroits. Vous avez fait une documentation pour les décrire aussi bien.
Alors 3/4, je connais Montréal, San Diego et Tijuana, donc la frontière mexicaine, et puis Barcelone. Je connais pas Jakarta. Ils sortent un petit peu moins.
C'est le plus court.
Ils sortent un peu moins dans la ville.
À Montréal, vous êtes allé où? Alors, vous les appelez les foufs électriques.
Ça existe?
Non, c'est les foufous.
Ah oui.
Vous dites fouf seulement dans le livre.
Je dis les foufounes électriques, puis après, ils résument en fouf électrique.
C'est ça. Mais foufounes électriques existent.
Ça existe, ouais.
Sachant que foufounes, pour les Québécois, n'a pas le même sens qu'en français. Ce sont les fesses.
Oui, tout à fait.
Et c'est un haut lieu de la musique canadienne. Ah ouais, c'est formidable. Ouais.
D'ailleurs, alors je suis retourné à Montréal là, donc à l'automne, et en fait la description que je fais n'est plus tout à fait.
Je
m'en excuse. Il y a plus tout à fait les zombies, les araignées. C'est un petit peu moins. Donc du coup, mais j'ai décidé de garder quand même le décor que j'avais inventé.
Parce que c'est resté longtemps la même chose.
Ça reste un décor extrêmement marquant, mais il y a plus exactement ce qui est décrit dans le livre.
D'accord. Vous avez cette force de fluidité dans l'écriture et de nous plonger comme si on était l'un des personnages. Ouais. Ça aussi, c'est un atout dans votre envie, en tout cas, de partage d'écriture. C'est-à-dire qu'une femme se reconnaisse dans cette histoire d'amour, qu'un mari se reconnaisse aussi en Olivier.
Oui, moi c'est vraiment écrire à la hauteur des personnages et des lieux. Moi mes souvenirs de jeunesse de Jules Verne, etc. Pas quand je lisais Michel Strogoff, j'avais l'impression d'être en Russie ou en Sibérie avec lui. Et après on m'a dit ouais, mais c'est pas exactement la vraie Russie, la vraie Sibérie, il y a jamais été, etc. Je m'en fichais, j'étais là-bas. Et là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que je fais des arrangements avec la réalité géographique, mais ce que je veux à tout prix, c'est quand ils sont à Barcelone, que les lecteurs ils ont l'impression d'être à Barcelone. Ils sont pas en train de lire un livre qui se passe à Barcelone, ils sont à Barcelone, quoi. Ouais, et pareil quand ils sont sur le Mont-Royal en train de cavaler ou de s'embrasser. passer. Ils sont sur le Mont-Royal et je me doute que la majorité de mes lecteurs vont jamais aller grimper sur le Mont-Royal. Néanmoins, ils auront l'impression d'y être. Et ça, c'est un vrai plaisir de... Vraiment, pour moi, c'est la traversée du livre, c'est la... je me fiche des critiques, etc. Ce qui compte, simplement, c'est que quand on lit un livre, à un moment donné, on oublie qu'on lit un livre et on est transporté, une espèce comme ça de téléportation très étrange. Et moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé fascinant dans la lecture, d'ailleurs plus que la littérature. Et voilà, donc dès que j'ai eu cette histoire, je me suis dit, ok... si on va à Montréal, on y va vraiment et ils vont pas rester dans la chambre d'hôtel ou dans l'aéroport, quoi. On va être sur le vieux Mont-Royal et on va se balader et on va y être. Ils vont manger des poutines. Enfin voilà, il y a un jeu qui fait qu'on est là-bas, quoi.
Et le plaisir d'être une femme. Vous vous mettez dans la peau de Nathalie, vous mettez dans la tête d'une femme qui est mariée, qui a un enfant, qui a juré fidélité et puis qui d'un coup se demande si elle ne commet pas l'irréparable qui risque de briser son couple.
Bah, ce qui est génial quand on est écrivain, c'est évidemment de se glisser dans la peau de tous les personnages. Et là, en l'occurrence, de Nati. Donc c'est vrai qu'écrire, moi je ne sais pas, c'est pas d'autofiction.
Est-ce qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'une femme ferait ça? Est-ce que
comment elle le ferait? Parce qu'elle ferait ça, oui, ça c'est on est d'accord. Mais comment est-ce qu'elle le ferait?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle penserait de ça?
Ouais. Oui, beaucoup. Et il y a eu pas mal de lectures et de relectures justement parce que certains trouvaient Nathalie absolument très sympathique, libre et se reconnaissent en elle. Et puis d'autres la trouvaient absolument insupportable parce qu'elle trompe son mari. Et puis il y a une histoire de pacte aussi qu'on ne va pas révéler, mais il y a évidemment un suspense et un pacte que vont passer ces amoureux.
Est-ce que vous demandez à votre épouse, est-ce que vous demandez à des femmes, est-ce que vous lisez d'autres livres, vous documentez pour savoir, pour être le plus féminin possible
Non, je ne me documente pas. Par contre, je fais beaucoup relire autour de moi, d'ailleurs à des femmes et des hommes, sur Nathalie. Évidemment, le regard des hommes sur Nathalie n'était pas du tout le même que les femmes. C'est pas un homme qui m'a dit que Nathalie était
dévergondée,
etc. Et puis, mais voilà, il fallait trouver le juste milieu parce que je voulais pas non plus que Nathalie est en permanence soit dans le remords, soit dans la culpabilité. Elle se laisse entraîner par une passion et elle l'assume. Puis je voulais vraiment que ce soit une femme moderne. Enfin voilà, elle est hôtesse d'entrée, elle est hôtesse de l'air. Elle a 53 ans, elle renonce pas à son métier et pour elle sa liberté. Donc sa liberté, évidemment, il y a une part de danger aussi.
Olivier, il est classe quand même.
Il est très
élégant.
Il est classe. Il est classe. Il est classe, mais il est classe, mais c'est le pendant d'Iliane. Mais et de toute façon, enfin, je raconte pas la fin, mais la toute dernière phrase ou la
ça
toute dernière scène.
C'est une grosse boulette, Michel, de raconter la fin.
Mais la toute dernière scène, je l'ai eu dès le début. C'est-à-dire, le roman se terminait avec Olivier, et je voulais cette scène d'Olivier, qui est le gardien de la maison.
Mm-hmm. Oui, vous avez raconté la fin. Déjà, vous précisez qu'Olivier est encore vivant à la fin.
C'est comme Agatha Christie. C'est comme Agatha
Christie. Malgré on n'en dit pas plus.
Malgré la menace. Et puis l'intoxication, enfin tout ça. La
poutine, c'est hyper dangereux, la poutine.
C'est indigeste.
Je sais pas, mais ça m'a donné envie d'y goûter.
C'est lourd.
C'est bon, la poutine.
C'est lourd. C'est frites, fromage, patates, cheddar. Non, c'est gras.
Faut essayer une fois.
Si on habite Montréal, qu'on en mange trois par jour, mais si on y va une fois de temps en temps.
C'est vrai, merci Michel.
Mais il faut y aller que quand il fait moins 43 degrés, sinon il n'y a aucune raison. C'est ça, il n'y a aucune raison. Michel Bussy. Le livre, je rappelle, s'appelle « J'ai dû rêver trop fort », beaucoup de musique. Alors j'ai dit, il y a aussi bien les Beatles et Cure que Clapton aussi dans ce livre. Et même Ed Sheeran. Faut dire qu'il y a un concert avec des stars, donc à un moment donné ils défilent tous.
J'ai mis le paquet. Oui.
Lors de ce concert, là c'est gratuit.
Live Aid à côté, Bohemian Rhapsody, c'est rien.
Il y a la Bamba qui est évoquée, Bésame Mucho aussi.
Tu veux de la Bamba? Et puis alors l'un des titres rock que je préfère le plus au monde. So darling, stand by me. Et la version de John Lennon, elle est dingue aussi. Manu Chilentano aussi. Jean-Jack Lang, ce roman est déjà un succès. Il faut le lire, ça va cartonner. J'ai dû rêver trop fort.
Très cher Nagui, effectivement, pas besoin de lire dans les boules de cristal pour dire que nous avons là un best-seller. Étant donné que tous vos livres, très cher Michel Bussy, oui, tous vos livres remportent à chaque fois un succès considérable. Je n'aurai pas l'outrecuidance, la suffisance, l'arrogance, l'insolence des tas de trucs en anse, en prédisant le triomphe de « j'ai dû rêver trop fort ». Alors bien sûr, ce succès, comme celui des précédents ouvrages de Michel Bussy, tient au suspense qu'il s'est ménagé avec finesse et un sens rare du crescendo dramatique, comme c'est le cas dans ce roman dont l'héroïne est emportée dans un chassé-croisé, vous l'avez dit Nagui, de plus en plus troublant, entre passé et présent, 1999, pardon, et 2019.
C'est bien.
Mais Michel Bussy ne se
contente pas. Jean-Jacques.
Je tente de respirer. Je reprends mon souffle. Mais Michel Bussy ne se contente pas de bousculer la temporalité. Il le fait avec style. Un style qui me touche d'autant plus qu'il est très proche du mien. Alors, en effet, mais je vous sens...
En toute modestie, n'est-ce pas?
Je vous sens, comme je vous sens dubitatif, très cher Nagui, eh bien, je vais vous donner un exemple pris tout à fait au hasard, page 32. Oui. Voici ce que dit l'héroïne de cette histoire, Nati, alors qu'elle évoque le moment où elle tomba amoureuse de son futur mari. Je cite le passage, deux points, j'ouvre mes guillemets. « Je suis resté à l'observer, en communion avec un guéridon qu'il sciait, dégauchissait, rabotait, ponçait, chevillait, vernissait, lasurait des tas de trucs en haie, alors que s'écroulent toutes les colonnes de burène sur ma tête, si je me trompe, mais ces énumérations agrémentées de rimes intérieures, d'assonances et d'allitérations, c'est du Jean-Jacques Lang pur jus, c'est du Gigi tout craché. Vous voyez, Nagui, vous aviez tort. Loin de moi, l'idée d'insinuer que vous seriez mon plagiaire, cher Michel Bussy, du moins je l'espère, mais permettez-moi de souligner non sans fierté ces similitudes. Enfin, si j'ai tant apprécié votre roman, c'est que je me suis totalement identifié à votre héroïne, Nati.
Bien sûr.
Comme vous, je me suis glissé dans sa peau, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà. Surtout parce qu'elle dit d'elle-même qu'elle est une fêtarde. Et ça aussi, c'est page 32. Ainsi, permettez-moi de vous inviter ce soir à la teuf. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air que j'organise ce soir au Banana avec des amis stewards. En attendant, bonne émission.
Merci.
La bande originale.
Eh bien, jeudi
sur France Inter.
L'arme fatale de ce soir.
C'est-à-dire que sur le solo de guitare, si t'emballes pas, t'es sûr c'est que ça, c'est sûr, c'est pas possible. Hôtel Californien, je le passe parce que Ilian est un guitariste qui est un bon guitariste, qui est doué, qui a pas trop peut-être de confiance en lui, où il a pas la prétention nécessaire pour exister. Donc il fait des covers et il chante les chansons des autres. Il ne croit pas en sa création.
C'est exactement ça. Alors c'est ce qui fait peut-être que aussi Nathalie tombe amoureuse de lui, c'est que c'est pas une rockstar en fait. Il porte les guitares des autres. Ouais. Et puis on sent bien
qu'il
a. Et puis il y a l'histoire de la muse. On sent bien qu'effectivement il attend qu'une femme l'aime pour son art. Enfin voilà, donc c'est le principe de la muse et de l'artiste. Et donc c'est aussi le roman raconte ça aussi. C'est peut-être l'idée d'un rendez-vous raté entre un artiste et celle qui aurait pu le faire devenir un artiste.
Ouais. Est-ce que c'est un peu vous ça, Michel Bussy? Cette notion de il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le travail qui devient un talent, mais il y a en plus cette espèce de d'amour propre, d'amour de soi, de se dire moi je vais être le meilleur, je vais y aller et j'ai pas peur.
C'est un truc super bizarre parce que quand on a réussi entre guillemets à être un auteur ou je sais pas un animateur ou un artiste etc.
On a forcément une voix avec les autres.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a forcément une voix à un moment donné qui dit toi tu seras le meilleur, toi tu vendras des best-sellers ou tu deviendras acteur et t'auras un César. Donc on y croit on y arrive.
Comme une prétention positive, mais je sais pas comment l'appeler.
Mais d'un autre côté, quand on dit voilà qu'il y a 10% des Français qui écrivent des livres, je suppose que c'est 10%, donc c'est 6 millions de Français qui écrivent des livres. Se sont tous dit à un moment donné t'es le meilleur et tu écriras des best-sellers. Et sur ces 6 millions, il y en a beaucoup qui arriveront pas. Donc c'est très difficile, après coup, de se dire cette voix, elle disait la vérité, parce qu'il y a plein de gens qui ont entendu une voix qui leur mentait. Mais ça s'appelle
comment ça? Ce que j'appelle la prétention positive, mais je ne sais pas quel mot lui donner. Vous l'appelez comment, vous?
Bah, je pense que c'est pas si le c'est
une prémotion. Le côté « I'm the best, fuck the rest », moi je vais y arriver. Qu'est-ce qui fait qu'un mec va monter sur scène, va prendre un micro, va chanter ses chansons en disant « Vous êtes 1000, 2000, 10 000 devant moi ».
L'audace, la folie.
Voilà, l'ambition aussi.
L'ambition
légitime de se dire je vais me donner les moyens.
L'ambition,
c'est que uniquement le but est atteint. Mais le fait que t'es le culot d'y aller en disant ce que je vais vous proposer va vous plaire.
Puis c'est souvent l'histoire qu'on se raconte après, j'ai l'impression, parce que finalement, en réalité, avant de monter sur scène pour la première fois, j'imagine qu'on se dit oui, j'en suis capable, je vais être le meilleur. Et deux secondes après, on se dit mon Dieu, ça va être une catastrophe. Et quand on relit l'histoire 20 ans après,
je suis un imposteur.
Voilà. Et quand on relit l'histoire 15 ans après, avec le succès, on se dit, ouais, à ce moment-là, je chantais que c'était mon chemin et qu'il fallait que je le fasse. Il y a toujours une façon, je voudrais écrire un peu l'histoire personnelle.
Mais après, il y a quand même quelque chose qui guide quand on écrit, par exemple, comme moi, une histoire d'amour. Il y a tellement eu d'histoires d'amour qui sont écrites avant qu'à un moment donné, si on s'y met, on se dit, moi, la façon dont je vais écrire mon histoire d'amour, elle n'a jamais été racontée comme ça. Il faut quand même une prétention démente pour se dire qu'on va faire ça.
Ce qui est vrai et faux. Parce que
et après, on doute énormément.
Ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a évidemment l'histoire d'amour, il y a évidemment le suspense et le côté thriller, mais il y a beaucoup de valeurs que vous transmettez. Et là, on retrouve le côté prof sur la confiance en soi, sur le travail, sur aussi d'ailleurs la vérité, le mensonge, la duperie, la tromperie, tout ce qui se passe au milieu de cette famille. Et comme c'est une famille et comme il y a des enfants aussi, les valeurs transmises aux enfants. Vous jouez dans toutes les dimensions.
Ouais, et sur la confiance en soi, moi je rencontre beaucoup de lecteurs qui écrivent, notamment de lectrices, et qui n'osent pas aller au bout de leur roman, aller au bout de leur de montrer ce qu'elles ont écrit, etc. Et ça participe à ça. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des lectrices qui sont géniales, qui ont une écriture formidable et qui, je sais pas, vont s'auto-censurer parce que non, mais pas moi, c'est pas pour moi, etc. Mais écris le roman, donne-le à un éditeur, fais-le lire autour de toi et voilà.
Essaye.
Et ça, c'est vrai que c'est une forme de se dire voilà. Et je pense qu'il y a des tas de génies méconnus parce qu'elles ont jamais osé. Je pense plutôt à des femmes parce que c'est généralement les hommes, ils ont plus le courage de le faire. Simplement parce qu'elles ont pas osé, elles ont gardé ça pour elles, quoi.
Et ben elle ose tout, même c'est Maria Rollman.
Bonjour, alors qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine? Ah oui,
ça on sait pas.
Que tu te réveilles déjà.
Que je me réveille et que j'ai découvert mon vice.
Encore
en termes d'érotisme, les amis, mon kink, le truc qui me fait vraiment chavirer et mon fantasme, je me suis rendu compte, c'est la reine d'Angleterre. Voilà. C'est venu en regardant une série historique Netflix, The Crown, vous voyez ce que c'est?
Oui,
c'est
super, j'adore.
Qui chronique donc la vie de, non, c'est des Anglais.
C'est anglais.
Qui chronique la vie d'Elisabeth II et qui est Lizzie the Beast et qui est cette grosse coquine d'Elisabeth Windsor. Qui est une sorte de bouteflika en plus populaire finalement. et qui, je dois l'admettre, est la personne qui m'a provoqué le plus d'émoi ces dernières semaines. Parce que donc dans The Crown, ça se trame au Royaume-Uni avec des gens qui sont anglicans, ça se passe dans la noblesse. Normalement, c'est vraiment des éléments qui tuent la libido. On le sait bien, ça fait longtemps que la majeure partie des Britanniques se reproduit par partogénèse, tu vois. Entre les dents, l'humidité, le régime alimentaire, je veux dire, à part les époux Beckham, personne n'a le cœur à la bagatelle. Mais en réalité, c'est ça qui fait tout le sel de la chose. C'est-à-dire que dans la série, on est au paradis de la répression des sentiments, du contrôle de soi, de la pudeur poussée à l'extrême. Les gens, ils préfèrent se foutre discrètement sous un bus plutôt que d'éternuer en public. Il fait froid, il fait gris, même en été, ils ont des maillots de bain en tweed. Enfin, tout ça est très triste. Tout est là pour cacher, pour réfréner les corps. Et donc, il y a une de ces tensions érotiques, mes amis, mais vous avez pas idée. Parce que nous, c'est vrai qu'on est un peu anesthésiés. Il y a des corps nus partout, tout le temps. L'hypersexualisation, c'est omniprésent, tu vois. On ne montre rien qui ne soit pas sexy. Les pubs, que ce soit pour du jambon ou un masque cheveux, il y a toujours une nana semi-bonne qui, à un moment donné, pour aucune raison, a une espèce de rire lourd de sous-entendu. mais il est garanti sans sulfite ou tu veux qu'on baisse? Qu'est-ce qui se passe? Alors que dans The Crown, généralement, un dialogue, ça se déroule comme ça. Are you coming? I'd rather not. Oh. Ça veut dire qu'ils ont envie de baiser comme des animaux, c'est incroyable. Et ça marche comme ça pour tout. Ils ont un sens de l'onomatopée, t'as pas aidé, tout se dit à demi-mot dans une syllabe, shall we shall not. Et ça veut dire, bah viens bien niquer ta race, mais tu vois, on se dit rien, c'est incroyable, c'est hyper beau, tout est chargé de sens, le moindre son est significatif, ils sont là, fringués comme des amiches, dans des grands couloirs venteux comme ça, et ils disent, ils font que des sons, ils sont là, oh, ah, Et là, t'as tout dit. Envahissons la Bretagne, j'ai pété la Freebox, il n'y a plus de Sprite. Tout est dit en un rien, c'est extraordinaire. Mais c'est tellement excitant. Moi, je dis, je pense vraiment, voir The Crown, ça m'a fait réaliser qu'il fallait qu'on remette des tabous partout. Des cols qui te serrent, des fringues inconfortables, des corsets, des politesses interminables. Parce que vraiment, la famille royale, leur vie, c'est une espèce de longue soirée BDSM. Tout est un truc de contrôle et de machin, c'est impressionnant. Je pense que c'est l'œuvre audiovisuelle la plus couverte depuis Les Bronzés font du ski. C'est-à-dire, on voit rien. Il n'y a pas de peau, que dalle. Et pourtant, tout est sexy. Oh là là, qu'est-ce qu'on est anglican, qu'est-ce qu'on parle pas de nos sentiments. Ah, ah, ah. Et moi, ça m'a fait rendre compte qu'au final, finalement, c'est très surfait, cette histoire de s'exprimer. On s'exprime, mais après quoi? Tu vois, il y a plus de voile, il y a plus de mystère, il y a plus rien. Tu te branles en jogging devant un pornac nul, un carton de pizza. Il y a aucune tension là-dedans. Il y a rien. Mais j'imagine, c'est de la fiction.
Ah, d'accord, okay,
et même à deux, exprimer les désirs, c'est pas bonjour, comment allez-vous, est-ce que vous voulez faire l'amour? Oui, ben formidable, allons-y. C'est très transactionnel, c'est très prosaïque comme ça. Alors que là, c'est plein de stupre, mais dans des châteaux avec des courants d'air, donc c'est chaud, froid, c'est très excitant. Dans un épisode, il y a le mari de la reine d'Angleterre, donc le duc d'Édimbourg, qui lui dit cette phrase parce qu'il vient de constater qu'elle prend de plus en plus d'ampleur dans son rôle de reine. Tout ça se passe en 1947, et lui dit « Soit je monte sur des échasses pour atteindre la hauteur de ma femme, soit elle peut se mettre à genoux. » Mais oui, mais foutrez-moi dans les cheveux, duc d'Édimbourg, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Je dis duc d'Édimbourg parce qu'il s'appelle Philippe, et c'est comme mon père. Donc c'est un peu douloureux de dire « Foutrez-moi dans les cheveux, Philippe. » Et à la fois, je viens de le dire, là. Donc je vais vous quitter pour aller directement chez ma psy. Mais vraiment, regardez The Crown. Si c'est pas par amour du Royaume-Uni, faites-le pour le sexe. Vraiment, faites-le pour le
merci
sexe.
Merci, Marina.
Et la reine se met à genoux.
Et la reine
se met à genoux. On
ne sait pas. Si, si.
Mais si.
Mais non, on ne sait pas.
Si, si.
T'inquiète pas.
J'ai tout vu. J'ai passé des ralentis plusieurs fois.
Mais j'ai pas montré.
J'ai eu le bonheur d'aller applaudir Marina Rollman hier soir.
Alors.
De rire.
C'est bien. C'est bien.
Il était assis à côté de ma maman, donc il ne peut pas faire semblant.
C'est pression.
Non, j'ai même eu la chance, pendant le spectacle, Marina Rollman fait un sketch où elle évoque une expérience auprès de Nathalie Portman. Allez voir le spectacle, je n'en dirai pas plus. Et cette expérience ayant eu lieu grâce à sa maman, évidemment, moi j'ai eu le scoop de me tourner vers la maman en faisant « C'est vrai !» Et la maman qui me fait genre « Ouais !»
Elle parle comme ça, ta maman ?
Oui. Elle est très classe. Elle est très classe.
C'est elle, Philippe.
Elle est très classe et elle est très belle. Et je te le redis droit dans les yeux, comme je te l'ai dit hier soir. Bravo.
Merci
c'est
beaucoup.
Intelligent,
merci.
C'est drôle, c'est élégant, c'est profond, il y a des valeurs, c'est c'est smart.
Et ça reprend le 24 septembre au Théâtre de l'Œuvre.
Voilà, et c'est Marina Rollman et c'est formidable. Je suis ravi.
Bravo.
Dans la bande originale, évidemment, je sais pas compter le nombre de disques, le nombre de titres que vous évoquez dans votre roman, Michel Bussy. On va s'intéresser à la musique que vous écoutez dans votre vraie vie de Michel Bussy. Il y a, mais je pense que la BO, elle doit pas être loin d'en place du livre. Les Beatles, pour commencer, au moment de votre naissance. Voilà, avec la stéréo d'époque, la voix d'un côté, la guitare de l'autre.
Ouais. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day.
Les Beatles, évidemment.
Ah, je suis fan absolu des Beatles. Enfin, moi, ils ont tout inventé. Enfin, je suis pas le seul à le dire, mais extraordinaire. Et j'adore le coup de la stéréo parce qu'il y a des titres que longtemps j'écoutais sur mon vieux poste qui n'avaient pas la stéréo. Et donc, par exemple, des titres comme Eleanor Rigby. Je pensais qu'avec du violon, j'ai découvert plus tard qu'il parlait, qu'il chantait.
Elle était mal branchée.
Ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la stéréo.
Il fallait se mettre en mono, quoi.
Même Girl, c'est pareil, quoi.
Exact, exact. Les Beatles, ce sont vos parents qui écoutaient ça à la maison?
Non, ma grande sœur plutôt. Ma grande sœur qui avait 50 plus, enfin, qui a toujours 50 plus que moi. Et c'est elle qui m'a fait découvrir les Beatles, mais après, elle a décroché, elle aimait plus, et moi j'ai toujours adoré les Beatles. Enfin, c'est pas, il y a un truc avec les Beatles qui est inégalable. Et je crois fondamentalement que le talent des Beatles, c'est la réunion, alors, de McCartney et de Lennon, mais je pense que McCartney avait plus de talent que Lennon, mais que Lennon avait le côté, mais que Lennon avait le côté rockstar et le côté incandescent et démesuré
et qui rebelle.
C'est le mélange des deux qui fait. C'est le talent de Mme McCartney.
C'est le mélange des deux, mais il faut pas oublier non plus les Ringo et les George.
Non, bien sûr,
Harrison,
bien sûr.
Parce qu'ils ont composé.
Mais je crois que c'est très rare finalement d'avoir ces deux trucs, presque deux opposés dans un groupe, ce qui fait que voilà, il y avait un côté. McCartney tout seul aurait fait une carrière à la Elton John, un truc comme ça, je pense.
65, Michel Bussy, c'est la naissance en Normandie, l'enfance à Manoir-sur-Seine, avec un goût pour la lecture qui se développe, j'imagine, parce qu'on a une maman institutrice ou pas ?
Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai toujours aimé lire les histoires. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pas de vidéo. Donc on lisait des BD. Il y avait le bibliobus qui passait. Moi, je prenais ça et je découvrais les Gottlieb et toutes les BD. Et puis tout ce qui me passait, je le lisais. Mais c'était la seule façon un peu de s'évader parce qu'on ne regardait pas la télé ou quelques séries. Mais donc la lecture, c'était l'ouverture sur le monde. Ce qui a bien changé aujourd'hui, mais il faut se remettre que notamment les BD, c'était le truc qui permettait de voir un peu des trucs de sexe, de trucs qu'on n'avait pas le droit de voir autrement, quoi.
C'est avec élégance que Leïla parle essentiellement de votre maman. Je sais que vous n'aimez pas parler de la disparition de votre papa, mais quand on voit la force et l'importance et la présence du père dans votre roman, on ne peut pas ne pas penser que c'est pas pour rien finalement que ce papa est très présent dans le livre et trop absent dans votre vie.
Ouais, sans doute, ou peut-être, c'est difficile, parce que j'écris quand même pas mal de romans qui parlent de la paternité, de la maternité, de ça. Après, je pense effectivement le fait d'être élevé dans un univers féminin avec ma maman, mes deux sœurs, fait qu'on développe sans doute quelque chose qui est différent par rapport à la féminité. Et effectivement, j'ai pas eu de papa bricoleur, j'ai pas eu de papa bagnole, etc. Donc on se reporte vers d'autres choses. Donc ça joue sans doute. Mais après, je crois beaucoup à l'inconscience. Enfin, quand on écrit, il faut laisser les idées sans chercher trop à savoir d'où elles viennent. Et se mettre au service de l'histoire. Et à un moment donné, quand on tient une histoire forte, l'inconscient, les réminiscences, elles viennent d'elles-mêmes. Et il faut pas les calculer. Sinon, ça ne marche plus.
C'est pas ce que je voulais dire, mais je me demandais si une blessure, une fêlure, une fissure permet de créer, pour penser justement cette blessure.
On crée de toute façon. Moi, je suis persuadé qu'avant la disparition de mon papa, j'étais déjà un écrivain potentiel parce que je lisais et j'écrivais déjà avec mes Brodelet avant. Mais évidemment, on écrit différemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait eu aucune blessure, à un moment donné, ça doit être beaucoup plus difficile pour lui d'être créatif et que quand on en a eu, bien
Chanson
sûr.
Chanson de Leonard Cohen, de la fissure jaillit la
sûr,
lumière.
Oui, c'est une évidence. Mais après, il faut quand même avoir au préalable soit une prédisposition, soit un goût, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des blessures dans leur vie et qui n'en tireront rien. Voilà.
Et croire en soi.
Voilà.
Et avoir la prétention d'écrire et de publier. On est au milieu des années 90, vous écoutiez.
Mais tu ne me dois rien.
Ah.
J'ai eu un mal.
Ton compatriote, juste.
Oui, et elle.
C'est vrai, c'est un pote. Embrasse-le pour nous. Stéphane Escher, qui revient avec un album de fanfare. Vous avez quelles images à écouter Stéphane Escher en 90?
À la fois j'adore Stéphane Escher, j'adore ce qu'il fait, et puis il y avait le clin d'œil aussi à Philippe Dian, c'est-à-dire que c'est un écrivain qui écrit ses textes, donc moi il y a une chanson qui est écrite, j'ai écrit une chanson pour Gauvin Serre aussi dans son album qui sort demain, et donc il y avait ce clin d'œil aussi au duo compositeur écrivain qui est quelque chose que je trouve assez beau.
Les 93, vous commencez à enseigner à la faculté de Rouen en géographie, on l'a dit, et rapidement l'année d'après. C'est votre premier roman qui arrive. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps ?
Très bêtement, c'est-à-dire que je faisais mes études, j'ai fait une thèse, je suis devenu après maître de conférence à l'université, et à ce moment-là, je me suis dit ça y est, je suis fonctionnaire, donc maintenant il faut que ce rêve de roman, je vais l'écrire, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, quand notamment on fait une thèse ou qu'on fait des études, c'est compliqué de combiner romans et voilà. Donc j'ai toujours écrit des bouts de scénario, mais en fait j'avais des tas de romans dans la tête, et à ce moment-là, après la thèse, je me suis dit allez, maintenant. J'écris mon roman.
2006-2007, vous écoutiez.
Tant d'angélus.
Et si en plus il n'y a personne, chanson sur le côté agnostique d'Alain Souchon, s'il n'y a pas de Dieu, justement, il y a une part mystique aussi dans votre livre.
Oui, il y a une part sur la superstition, sur les croyances. Après,
vous avez quel rapport avec la religion, vous ?
Moi, j'ai eu une enfance très catholique et puis j'ai perdu la foi, je sais pas si j'ai eu un jour, mais vers 15-16 ans, quoi. Enfin voilà, j'ai longtemps comme un peu comme Souchon, quoi. On me demandait de faire ma prière, donc je la faisais, puis il y avait personne au bout, donc à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter. J'admire les gens qui arrivent comme ça à communiquer avec quelque chose ailleurs, mais moi, y a personne ne m'a jamais répondu, donc à un moment donné, je me suis dit, tant pis. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup, je suis un peu scientifique, donc j'ai beaucoup de mal avec la mystique. quand je vais à un mariage, ou, etc. J'ai beaucoup de mal avec le cérémonial.
Allez voir Marina Rollman dans son spectacle. Il y a aussi exactement cette même analyse de. J'admire ceux qui ont. Non, mais j'admire ceux qui ont une croyance parce que c'est
Et par quoi on remplace s'il n'y en a pas aussi.
Exactement. Ouais,
ouais. Et puis c'était pour parler de Souchon aussi parce que je suis un grand, grand amoureux de Souchon et de sa plume. Ouais, vraiment.
Et 2006, pour vous, Michel Bussy, c'est la. Publication d'un roman, pas le premier roman, parce que j'évoquais celui que vous aviez écrit en 94. Il a fallu attendre 2007 pour qu'il sorte, parce que ce premier roman avait été refusé par toutes les maisons d'édition. Vous êtes revenu à la charge quelques années après, pour dire aussi, in fine, que finalement, une œuvre, elle peut être qualitative, mais pas être présentée forcément à un moment où on a envie d'elle, où on vous lit avec attention.
Ah oui, moi je suis persuadé qu'il y a plein de chefs-d'œuvre qui sont rangés dans les tiroirs d'auteurs ou chez les éditeurs parce qu'on peut pas prédire un succès à l'avance. Hein, donc mes romans auraient très bien pu ne jamais exister. Hein, ça c'est une évidence. Hein, il y a une part de ça bascule d'un côté ou de l'autre à un moment donné, mais ça aurait très bien pu basculer de l'autre côté. C'est parce que enfin, on m'a pas rentré par la porte, je suis rentré par la fenêtre d'un petit éditeur régional parce que j'ai cru.
Vous avez rencontré un grand succès avec avec Code Lupin. Et donc, tout d'un coup, peut-être qu'on vous a regardé différemment ou lu différemment.
Ah, ça s'est fait marche après marche, c'est-à-dire que j'ai fait 4 romans en tant qu'écrivain régional, très connu en Normandie, absolument inconnu ailleurs, évidemment sans aucune presse nationale. Mais néanmoins, il y a comme ça beaucoup d'auteurs qui sont très connus dans leur région. Et puis un jour, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un ou deux prix et puis que de basculer
sur l'international. Les Nymphéas Noirs, prix Polar, Grand Prix Gustave Flaubert, Prix Polar Méditerranée, Prix des lecteurs du Festival de Polar de Cognac. Enfin, les prix sont tombés. Un avion sans aile, qui a été un carton. Porté par Bruno Solo, qui a été un carton sur M6, oui, plus de 3,5 millions de spectateurs mérités. Il y a ensuite N'oubliez jamais, prix du talent littéraire normand gravé dans le sable. Aussi Maman a tort, Le temps est assassin, on l'a trouvé plutôt joli. Et maintenant J'ai dû rêver trop fort. Julie Malheur, bonjour.
Bonjour.
Merci
Marie.
De venir à ce micro. Journaliste culture au point. C'est un phénomène, Michel Bussy. Je sais bien que tout le monde n'aime pas Michel Bussy. Et qu'il a même dit qu'il s'en foutait de la critique discrètement tout à l'heure. Vous avez glissé ça dans.
On s'en fout jamais totalement,
mais on fait sans.
On continue
quand même.
comment expliquer ce phénomène, Michel Bussy?
Ah bah, je crois que si on parvenait à expliquer le phénomène, enfin moi en tout cas, je serais la femme la plus riche de France. Tout le monde rêve de savoir comment on fabrique des best-sellers, comment ça marche, mais non, il n'y a pas.
Non, c'est pas comment il écrit, c'est cet amour du public, c'est le suspense, c'est la fiction, c'est la fluidité de l'écriture.
Ah, je pense que sa recette à lui, c'est la sincérité. D'abord, vraiment. C'est des thrillers, c'est certain, il y a une intrigue, c'est ce qui le différencie d'autres grosses ventes. Mais je crois que Michel, c'est vraiment la sincérité. Il a une écriture très intimiste. Je crois qu'il fait des fidèles parmi ses lecteurs. Voilà, il y a vraiment des inconditionnels. Il y a des intrigues à chaque fois, c'est un vrai conteur. On a à chaque fois des histoires qui se ressemblent pas, dans des lieux qui ne se ressemblent pas. On est parti à La Réunion, en Corse, en Normandie, on est allé...
Ça c'est le prof de géo, ça bouge. Ça bouge, ça bouge le prof de géo.
C'est le cartographe.
Et ceux qui lisent Michel Bussy, enfin quand on est tombé dans un roman, ça y est, on est pris, il faut lire le nouveau Bussy comme un rendez-vous attendu.
Je pense que c'est le passage obligé. D'ailleurs, si certains l'ont pas fait, c'est une grave erreur. Quand on commence à Michel Bussy, on est obligé d'aller jusqu'à la fin.
C'est clair, c'est clair.
Alors évidemment, quand le suivant paraît, on recommence, on remet le doigt dans l'engrenage. Mais évidemment, il y a le phénomène de société où il est placardé partout, tout le monde a lu, c'est devenu une conversation. T'as lu le dernier Michel Bussy, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus arrêter, on peut pas s'arrêter en route. Hein, y a un tas de romans extrêmement barbants, et on sait avec Michel Bussy que de toute façon, ça ne vient qu'à la fin et qu'il va nous la faire à l'envers. Et sa signature.
Il y a quelques twists pendant. Il faut pas directement lire que la fin.
En plus, on ne peut pas lire que la fin parce qu'on ne comprendrait rien. Voilà.
Exactement.
Et vous avez bien fait de venir, Michel.
Bah,
aujourd'hui,
ce qui est formidable, c'est que aussi à la fin, on comprend tout. C'est-à-dire que rien n'était gratuit ou comment dirais-je,
tout fait sens,
aucun effet. Voilà, tout fait sens et tout est utile.
Et ça pour Nagui, c'est un soulagement de
évidemment,
comprendre.
Pas, évidemment,
c'est
ouais, surtout au bout de 480 pages. Évidemment, pardon de parler de vous comme d'un nom propre ou d'une marque. Les Bussy, les Musso, les Lévy sont pointés du doigt par les critiques dont vous êtes. Alors, je ne dis pas que vous voulez vous montrer du doigt. doigt ces auteurs, mais les critiques littéraires, branchouilles, bobos, parisiens, n'aiment pas. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas quand ça marche en France ?
Ouais, je pense. Alors ça, c'est un petit peu vieux monde. Hein. J'espère que c'est en train de changer, Michel. Tu nous le diras. Mais au point. Je parlais de nous. Je vais pas parler de la presse en général. Ouais. Au point. D'abord, on en parle des grosses ventes. Michel Bussy. Voilà. Moi, j'en ai parlé. Le premier qui est paru aux presses de la Cité. On aime ça parce que ça fait partie du panorama, tout simplement. Maintenant, il y a toujours les réticences. Effectivement, un peu vieux monde, un peu dinosaure, germano-pratine, le snobisme, on va dire, qui fait que parce que ça se vend. Ouais. Pas.
Mais après, est-ce qu'on peut aussi... ça m'intéresse aussi de me poser la question comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en effet, qui n'aiment sans doute pas Michel Bussy et qui le disent. Alors, est-ce qu'ils sont tous parisiens ou pas, je sais pas. Mais on peut être aussi parisien et ne pas aimer Michel Bussy sans être dans une critique liée au fait qu'il vient de Rouen, qu'il n'est pas parisien. Enfin, je veux dire, on peut se dire que... Est-ce qu'on aime la littérature comme ça ou pas? Mais c'est pas forcément... Enfin, je trouve que c'est un peu caricatural à l'inverse. Il ne faut pas être injuste avec le critique qui est tout de suite assimilé à c'est bobo, c'est parisien. Il y en a.
Mais enfin, c'est l'invité, il a raison, il écrit bien.
Et moi, je ne dis pas ça, je ne discute pas de ça. Je dis simplement qu'on peut considérer qu'on aime l'écriture de Michel Bussy ou qu'on ne l'aime pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas qu'on est forcément bobo germano-pratin.
Non, mais il y a une forme quand même de.
Voilà, les ostracisme.
Oui, les grosses ventes ont. Ou de snobisme. Voilà, n'ont pas toujours été traité, évidemment, dans la presse nationale, on va dire.
Avez-vous encore 10 minutes à nous consacrer? Parce que comme il y a les infos qui arrivent, vous restez avec nous après les infos?
Bien sûr.
Voilà, j'avais encore quelques questions à vous poser et Tanguy sera là également tout à l'heure. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous intéressez aujourd'hui à la collapsologie.
Oui, les collapsologues sont les gens qui pensent que notre civilisation est en train de s'effondrer, qu'il faut se préparer. Certains vivent à la campagne, ils retapent des calèches pour se déplacer après la crise. Parmi eux, Yves Cochet. Vous voyez Yves Cochet? Mais si, un ancien leader des Verts.
Très bien,
voyez les Verts. Yannick Jadot.
Très
bon,
bien.
Ok, j'abandonne.
C'est la bande originale avec Leïla Kadourou, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Albert Algou, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Et notre invité Michel Bussy.
Bravo. Bonjour.
Avec ce roman J'ai dû rêver trop fort, sorti il y a à peine un mois. D'ailleurs, est-ce que le roman sort au moment où il est fini ou est-ce qu'il y a des dates comme ça clés? On se dit, on va attendre les fêtes de fin d'année pour que ce soit un cadeau sous le sapin.
Ou au contraire,
proche de l'été. On va faire attention, on va faire attention qu'il n'y ait pas d'autres grosses sorties. Ou est-ce qu'il y a une tactique marketing,
Ouais, alors les éditeurs regardent quand même ce que vont faire les autres gros vendeurs, mais le problème c'est qu'il y a des gros vendeurs pratiquement toute l'année.
Et tant mieux, parce que plus de gens lisent, plus ils ont envie de lire les uns les autres.
Voilà, en gros, généralement, les romans comme les miens évitent soit la rentrée littéraire, soit ou janvier, mais il n'y a pas de règle. Hein. Et puis là, les grosses périodes de vente, c'est effectivement Noël et l'été, ouais.
Ouais, c'est ça. Les vacances de Pâques, là, c'est.
Ça tient chaud pour un petit moment quand même. Hein.
C'est parfait.
Ça dépend de tout.
Après, l'avantage des livres, c'est quand même qu'ils se vendent pratiquement sur un an. Enfin, ce qu'on appelle un peu les long-sellers aujourd'hui, c'est pas comme un film où au bout de 15 jours tout est joué. Ouais. Le roman peut très bien pas se vendre pendant un mois, puis sur la durée continuer de se vendre. Ouais.
Julie Malheur, vous avez eu la gentillesse de rester. Je rappelle que vous êtes journaliste culture au Point, à l'hebdo comme sur Internet, j'imagine.
Ah oui, évidemment, partout,
tout le monde participe, 360. À propos de Michel Bussy, justement, 360 ou pas, est-ce que c'est un auteur à succès en France ou en francophonie ou est-ce qu'il s'exporte bien?
Il s'exporte, Michel, et c'est pas facile pour les auteurs français parce que évidemment on est écrasé par la marée anglo-saxonne. Mais Michel, je crois, on était déjà avec le deuxième roman aux presses de la Cité, qui était déjà traduit en 22 langues, quelque chose comme ça. C'était colossal pour un français parce qu'effectivement il y a Guillaume Musso, il y a Lévy, il y a Granger, il y a des auteurs comme ça. Mais enfin, on les compte sur les doigts des deux mains maximum.
Ceux que l'on adapte, je parlais de la réussite sur M6, ceux que l'on adapte sont rares aussi.
Ah mais ils sont extrêmement rares. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes. il y a eu le gros succès là de la semaine, mais je pense qu'ils vont adapter tous les Bussy. Et puis, c'est colossal à mon avis, même d'arriver à prendre, de trouver des auteurs français comme ça qu'on arrive à adapter. On n'est pas très fort en France, même pour porter nos propres auteurs. On va toujours chercher
à
l'étranger.
Ouais.
Voilà. Donc c'est une belle entreprise. Bussy, c'est un beau produit. Hein.
le succès sur M6, c'est Un avion sans aile qui a été transformé en fiction et une transformation réussie. J'ai dû rêver trop fort et le nouveau roman aux presses de la Cité. Merci d'avoir eu la gentillesse de rester, Julie. Vous
merci
pouvez
à vous.
Encore rester, ne serait-ce que pour écouter Tanguy Pastureau. Comme ça, Tanguy, vous avez regardé BFM TV.
Oui, bon, ça va, chacun ses défauts. Moi, je fume pas, je bois pas, je traverse sur les clous. Le truc le plus vicelard que j'ai envoyé par SMS à une dame, c'est « Je pense à toi, ma louloute ». Donc oui, je regarde BFM. Parce que tout dans cette chaîne me fascine, notamment Christophe Barbier, qui est le mâle alpha suprême, avec ce symbole phallique qui est son écharpe. Écharpe toute rouge, partant de ses cuisses, faisant le tour intégral de sa nuque et retombant. Quel est le message caché? Si je vis avec sur moi le boa constrictor du vivarium de Dijon. Et donc, fort de cet aplomb, tous les matins, Barbier donne des notes politiques. Castaner, 12 sur 20, nul, mais tient bien la vodka pomme. Macron, 19 sur 20, a vendu 300 avions qui puent la mort aux Chinois en train de défoncer la planète. Alexis Corbière, 2 sur 20, parce qu'il est de gauche. Mais il en faut de la confiance en soi pour noter les autres. Mais moi, je suis pétri de doutes. Mais si j'avais un sexe énorme comme Christophe Barbier, ben je dirais, moi aussi, Daniel Morin, 11 sur 20, belle qualité d'écriture, mais barbe négligée. Bref, hier, je regardais BFM au réveil. Une fille du service culture parlait du nouveau Dumbo, tandis que Barbier tripotait son écharpe afin que tous notent la similitude physique supposée entre l'éléphant et lui, quand soudain, le présentateur lança un sujet sur Yves Cochet. Ah oui. Cochet, me dis-je, ce nom m'est familier. Certainement un humoriste France Inter, il y en a tellement. Le premier chauffeur de taxi qui fait rire la directrice d'antenne est pris. Puis je me mis à réfléchir. Ma compagne, entrant dans le salon, me dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu avec cette tête. » Avant d'ajouter « Quelle chance j'ai d'être avec vous, maître. Je vous vénère. Ce corps. » Ah bon, bah, c'est une chronique, hein, il faut faire rêver l'auditeur. Un certain habite Chalon-sur-Saône, sinon pas au moins ça. Ils vont se jeter dans la Saône, hurlant en plus, Raphaël Glucksmann au PS, ça prend pas, il me reste plus rien. Ah, plouf. Et là, je me souviens, Yves Cochet, j'ai fait 4 chroniques sur lui. Une en 97, 2 en 2002, une en 2007. Je suis une machine. C'est un ancien vert, devenu marron parce que maintenant il est plus mûr, il a 73 ans. Et qui fut ministre de l'Environnement sous Chirac. Le grand type sympa qui tapait dans le dos des paysans en leur disant que c'était loin chez eux avant de leur siffler toute la cave de gnôle. Bernadette ensuite le mettait dans le coffre de sa 205 et il dormit 3 heures avant d'hurler « j'ai faim ». Eh bien figurez-vous qu'Yves Cochet est devenu collapsologue. Ce sont des gens persuadés que l'effondrement de la civilisation est en cours. Ils ont vu l'émission d'Evelyne Thomas intitulée « Quand il rit, on dirait qu'il pète » et ils ont compris que la fin du monde approchait. Cochet vit donc dans une ferme qu'il a choisie parce qu'il y avait une source et des forêts. Ainsi tout se casse la figure, il pourra boire, se nourrir, se chauffer. Comme on voit dans les pubertas quand un papy grille des saucisses industrielles emballées sous vide en disant à son petit-fils à quel point c'est beau la nature. Et il a une calèche pour aller au village quand il n'y aura plus de pétrole. À côté de la vie des Mormons, c'est la famille Kardashian qui a pris 15 jours de RTT à Las Vegas.
Bon, en gros, Yves Cochet se prépare à la fin du monde.
Oui. Il dit il y a trop de pollution, la Terre est en train de mourir d'ici 5, 10 ou 15 ans, ça va péter. Je rappelle que j'ai vu ça sur BFM à 8h20 du matin. J'ai repris 3 fois du Benko ensuite, j'ai fait des bulles dans mon bain. Bah après, j'avais encore le blues. Le seul truc qui m'a surpris, c'est qu'il s'attend à ce que ça s'effondre et qu'il ne se dit pas du tout que si ça s'effondre, ça ferme ou tout est prêt, bah tout le monde va vouloir y aller. Hein, soit pile l'inverse de Debout la France. Donc il ferait bien de se mettre au Kung Fu, au Krav Maga ou à la polyphonie corse tout seul parce qu'il va avoir des ennemis à repousser. Et puis les apparences peuvent être trompeuses. Cocher un matin peut avoir l'impression qu'un zombie arrive près de sa ferme au matin de l'apocalypse, il va s'affoler et en fait il s'agira juste de Jean-Yves Le Drian venu lui dire bonjour parce qu'ils se connaissent de leurs jeunes années. Ah bah lui vous le croisez par une journée nuageuse, pardon, mais il dégage plus l'énergie vitale de la momie de Lénine que celle de Passepartout quand il s'agit de fermer la porte à la gueule d'Élodie Gossuin juste parce qu'à l'énigme du père Fouras 2 plus 3 elle a répondu je sais pas Marignan. La collapsologie, des livres, des émissions en parlent, il y a même des conférences et c'est normal parce qu'on sait qu'on va dans le mur. Ah bah je suis désolé mais si le monde s'effondre et que le Grand Prix d'Australie de Formule 1 ça se fait en calèche, ça va être moins intense. Hein, il va falloir fusionner Motors TV et Kidia. En tout cas, alors que nous on est là à faire les cons, et bah Yves Cochet lui se prépare. Il a appris à sucer la sève de l'érable et avec ça il peut tenir 14 jours. Si en plus il bouffe une taupe crue, on peut compter dessus jusqu'en 2052. On n'aurait pas misé un centime sur Yves Cochet. Mais si ça se trouve à terme, ce sera le seul survivant. Il errera dans la cambrousse avec son cheval dont il boira l'urine et fera brûler les crottes pour se réchauffer. En attendant, c'est c'est un des rares politiques à voir plus loin que dans 15 jours, hein, et rien que pour ça, j'espère que demain, Christophe Barbier, le Rocco du tissu, lui mettra 19 sur 20.
Merci.
Tanguy, toujours du 10 au 19 juillet au Théâtre de Paris, au Festival d'Avignon.
Très bien. Ouais. Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort, un roman qui est sorti il y a à peine un mois et qui déjà dépasse les 100 000 exemplaires.
Avec le poche quand même.
Vendus. Mais ouais, mais enfin, ça fait 100 000 lecteurs, hein, ouais. Quel que soit le format, même si on prend les tablettes et les téléchargements, ça fait du monde. Et tant mieux, et ça ne va cesser de croître parce que on ne peut pas le lire et ne pas le recommander à quelqu'un parce que c'est touchant, parce que ça c'est concernant, au milieu de passion, d'inquiétude, de suspense et de la musique, il y a aussi des leçons, notamment de se demander d'ailleurs est-ce que c'est bon ou pas de se replonger dans le passé et d'aller chercher des signes partout et de remuer de vieilles histoires.
Bah ouais, moi je voulais mêler, c'est souvent le cas dans mes romans, le côté thriller, suspense, voilà, rebondissement et twist final, et ce côté mélancolie, parce qu'effectivement, on l'a dit, Nathalie, elle a 53 ans, elle est toute jeune grand-mère, et puis elle repense évidemment à sa passion 20 ans après, et j'ai adoré comme ça passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire voilà, on est sur une scène, sa fille elle a 6 ans, on passe de l'autre côté, sa fille est devenue une ado qui la jette. Donc,
passer
voilà,
de l'un à l'autre, je l'ai bien saisi, mais passer avec nostalgie, c'est-à-dire chercher presque à reconstruire le passé. Ça, c'est dangereux.
Ah, je sais pas si c'est dangereux.
Vous aimez
parce
ça, vous.
Que... Bah, non, mais alors les gens sont plus ou moins nostalgiques ou mélancoliques, mais je trouve que, notamment, c'est pour ça que je mets tout souvent des enfants dans mes romans, quoi. Il y a toujours ce côté, quand on voit les enfants, on les revoit 20 ans. Enfin, puis il y a ce côté, le temps, il n'est pas linéaire. Enfin, c'est vrai que, notamment avec les souvenirs des enfants, quoi, on a l'impression, parfois, 20 ans plus tôt, c'était hier. Enfin, on a l'impression d'avoir des images extrêmement précises.
Les enfants, il faut peut-être les protéger des histoires sexuelles de leurs parents aussi.
Non, pas forcément.
Normalement,
oui, mais le roman, c'est aussi sur le secret, bien sûr.
Oui, bah là, pas.
Ah, bah, ils sont grands, si, ils sont grands quand ils l'apprennent, mais quand ils sont petits, ils ignorent tout.
Vous ne croyez pas au secret de famille qu'il faut garder ad vitam aeternam, vous?
Si, justement, dans mes romans, c'est souvent basé là-dessus. Sauf qu'évidemment, dans un roman, il y a un moment donné où ça explose, où ces secrets qui sont tendus vont générer des cascades comme ça, un peu en conséquence.
J'ai dû rêver trop fort, le nouveau Michel Bussy. Daniel Morin, on voit bien dans ce roman qu'il peut être donc déstabilisant, peut-être dangereux de se replonger dans les histoires d'amour que l'on a vécues. Faut prendre en compte la nostalgie, le temps qui a passé. La famille qui s'est construite. En fait, il faut que la raison soit plus forte que l'envie.
Nom de Dieu, attention, planquez-vous. Oh putain, sans prévenir, il a balancé une attaque massive, le djihadiste de la culture, une attaque de conneries par le mot, une explosion à fragmentation verbale. Ah, Lina, file-moi ton dentifrice Calva Popper sous ton déodorant diesel urine que je lui nettoie la bouche au sarrasin. Son haleine est chargée d'ennui. Et que c'est dangereux de se revivre des histoires d'amour, ni ni ni. Et que la raison doit être plus forte que l'envie, ni ni ni. Et que le cerveau doit l'emporter sur le cœur, ni 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 ni. Vous me flagellez de dégoût, monsieur Guimauve.
Ça me touche.
Ah, et puis qu'est-ce qu'on veut, Guimauve? Mais oui, c'était pour aujourd'hui.
Ah, t'aurais pu faire guitare.
Plus tard, on verra. Et qu'est-ce que vous y connaissez aux histoires d'amour qui reviennent? Vous changez de femme comme de chaussures. Femme comme chaussures que vous prenez par paire. Et que vous choisissez toujours étrange. Alors oui, elles ont toutes l'accent de l'Est. Alors oui, elles ont toutes plus de 18 ans et un mois. En revanche, elles aimeraient tout aussi qu'à défaut de leur verser un salaire, vous leur rendiez leur passeport. Hein? Ça ne leur rendra pas leur dignité, mais au moins elles pourront s'échapper à vos griffes de satire et à votre queue fourchue. Et n'oubliez jamais,
tu
monsieur Guy, oui, j'ai même des photos, n'oubliez jamais que vous avez en face de vous un pro de la vieille relation, de l'amour à la naphtaline, de la passion poussiéreuse et de l'érotisme à arthrose. Moi, myself, sweet little me. Permettez-moi de vous rappeler que, malgré plusieurs ruptures, ma femme, ma compagne, la porteuse de mes enfants, celle que je connais depuis que je suis tout petit, pour cause, c'est ma mère. Eh ben, avec elle, la raison ne l'emporte pas, ne l'emporte jamais. Non, chez les Morins, on laisse parler nos organes. Et c'est beaucoup mieux ainsi. Désolé, mais une fois encore, mon brave et tout petit monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi !
Voilà !
Avec Nagui. Est-ce que dans votre roman, Michel Bussy, le choix des métiers des uns et des autres, c'est-à-dire le menuisier, ébéniste, l'hôtesse de l'air, le pilote de ligne, le guitariste, l'artiste, il fallait bien qu'il ait un art en particulier, trouve des échos dans des passions personnelles ?
Non, pas forcément. Là, enfin, la guitare, ouais, j'aurais rêvé de jouer de la guitare. J'ai essayé,
c'est pas le cas.
Mais bah non, pas du tout. Et voilà, ado, j'ai préféré.
On sent
écrire.
La frustration dans votre réponse.
Ah, carrément, carrément. Ouais. Non, non, mais voilà,
bah, adoré. Mais il est encore temps.
Mais c'est un non, c'est trop tard là. Ouais. Mais c'est un pouvoir extraordinaire
il
de jouer de la guitare.
Il faut croire en soi, ouais, ça, Michel ouais. Bussy. Je l'ai lu dans le Michel Bussy.
Plus de 50 ans se mettent à la guitare.
Mon père, il a fait.
Mais c'est vrai que ce que
Philippe. Mon père, il gratouille. C'est très chiant. Il passe juste 2 heures par soir à faire ping, 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 ping. Mais c'est possible.
Mais
c'est
non, plutôt que de vivre avec des regrets, de se dire j'aurais dû, autant le faire.
À lui, dans sa tête, c'est Keith Richards, il n'y a pas de problème. C'est pour, c'est pour l'entourage que c'est ennuyeux. Ouais. Mais c'est possible.
Attends, il aurait pu prendre violon.
Okay. Bon, la prochaine fois que je reviens, c'est pour Taratata.
S'il vous plaît.
Alors. Mais pour ça. Jouer. Hein.
S'il vous plaît.
Vous avez écrit une chanson pour Gauvin Serre, vous nous disiez tout à l'heure. C'est Que restera-t-il de nous ?
Et c'est carrément, on va l'écouter, c'est la chanson du livre.
C'est la bande. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une bande originale de livre.
Laisse-moi un peu de toi, une part de ton regard, un éclat de ta voix. Laisse-moi.
Comment ça s'est passé cette collaboration avec Gauvin Serre, qui est venu vers l'autre?
Ah, génial, on s'était rencontrés sur une soirée qui croisait littérature et chansons. Et puis, il avait lu mes romans, donc il m'a envoyé 2-3 textos. Et puis, quand j'ai écrit ce roman, j'ai eu l'idée de faire, enfin, que la chanson qui est dans le roman existe en vrai. Et donc, une bande originale de roman. Et puis, j'ai écrit à Gauvin en lui demandant est-ce que ça lui dirait de la mettre en musique. Et tout de suite, ça l'a branché. Alors que lui, il écrit ses textes toujours. Oui. Mais c'est la première fois qu'il écrivait une musique pour un autre.
Est-ce que, au moment où vous avez écrit le texte de la chanson dans le roman, vous aviez la musique en tête?
Ah, pas du tout. Surtout que si on lit le roman, c'est plutôt piano-voix. Ouais. Et du coup, c'est très différent ce qu'a fait Gauvin. Et je trouve que ça marche très très bien parce que moi, si, voilà, bon, c'est pas faire de la musique, mais si on m'avait commandé, j'aurais dit un truc très lent, un slow à piano. Et là, il fait une balade très mélancolique qui est magnifique. Donc ça marche très bien.
C'est exactement ça qui m'a frappé. C'est que tout le long du roman, Ilian, votre héros, est un guitariste. Il joue de la guitare, il est doué pour la guitare. Et le moment où il va pour chanter une chanson dédiée à cet amour avec Nathalie, il va au piano.
Ouais.
C'est vicieux quand même.
C'est vicieux, mais j'avais cette scène. On va pas tout raconter, mais il y avait la scène. Non. Effectivement, ils sont dans un restaurant un petit peu classe, dans un bar d'hôtel, et j'avais cette scène où il se met au piano et peut-être pour une sorte de rupture. Et j'avais vraiment cette scène en tête du piano bar où il lui dédie cette chanson.
Laisse-moi un peu de toi, une part de ton regard, un éclat de ta voix. Laisse-moi un peu de toi.
Finalement, vos romans vous conduisent partout. Collaboration avec Gauvin Serre pour de la chanson, adaptation pour la télévision, on vient de parler d'Un avion sans aile avec Bruno Solo sur M6, et puis adaptation des Nymphes et à Noir en bande dessinée.
Ouais, tout à fait. Je juste reviens sur Gauvin, parce que son album sort demain. Ouais. La chanson, elle est en bonus dans son album, donc je lui souhaite bonne chance, évidemment. Et puis sur la BD, ouais, c'est une BD donc de Nymphes à Noir, donc adaptée par Fred Duval, qui est un super scénariste de BD, et puis Didier Casgrain, qui est un pur génie, qui est plus presque plus un peintre qu'un dessinateur de BD. Et je trouve cette BD,
ça fait BCD quand même, hein, Bussy, Casgrain, Duval.
Ouais. Et c'est une BD qui cartonne, et je trouve qu'elle est magnifique. Enfin, ceux qui ont aimé le roman d'Un fait à Noir, généralement, aiment beaucoup cette BD. Ouais. Mais ceux qui n'ont pas lu le roman, et ils sont beaucoup dans l'univers de la BD, parce que c'est deux univers qui ne se rencontrent pas tant que ça, généralement, sont vraiment bluffés par la BD. Je peux en parler, puisque j'ai fait écrire le roman, mais je n'ai pas du tout travaillé directement sur le truc. Je pense que c'est vraiment c'est un petit chef-d'œuvre ce qu'ils ont fait, vraiment.
Et alors, il ne reste plus que quoi, en fait? Comme vous pensez à quoi?
Il reste le cinéma. Il faut le cinéma,
Et alors, ça, vous ambitionnez le cinéma?
J'adorerais, mais ça revient à ce qu'on disait avec Julie tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense qu'il y a encore peut-être une forme de snobisme et que les plus gros vendeurs en France attirent pas forcément les plus grands réalisateurs qui vont peut-être aller privilégier des romans d'auteurs plus confidentiels. Alors qu'aux États-Unis, évidemment, tous les best-sellers sont adaptés directement. Donc je pense qu'il y a encore ce petit côté-là en France, parce que aussi on n'a peut-être pas les moyens non plus de produire les best-sellers à hauteur de leur... et c'est assez rare. Bon, il y a l'exemple de Dupontel avec Au revoir là-haut, mais finalement il n'y a pas tant d'exemples de grands romans, de romans qui sont vendus énormément en France, qui ont fait des adaptations de très grands films.
C'est assez rare. Le succès de la série sur M6 pourra sans doute aider. Parce que quand d'un coup vous avez 3,5 millions de gens qui regardent la fiction,
c'est le paradoxe. Bah, je regarde très peu la télé, je regarde pratiquement jamais de séries et tous mes romans sont adaptés en série, quoi. Donc c'est assez étrange. Voilà. J'écris absolument pas pour la télé, enfin pour les séries, mais voilà.
Bon, comment ramener un roman de plusieurs centaines de pages à une bande dessinée d'une centaine de pages? C'est-à-dire on passe de 400-500 pages à 100?
Ça se fait super bien en fait, beaucoup plus facilement pour la télé par exemple, et par exemple une série qui va faire 8 heures de télé. Je sais pas, il y a une scène par exemple où Stéphanie dans mon roman doit quitter son mari, et donc c'est une longue scène où on est dans un monologue intérieur de cette femme qui ne sait pas comment elle va dire à son mari, son resto, qu'elle va le quitter. Et là il y a 3 cases, ils boivent, etc. C'est tout silencieux, à la fin elle dit « Jacques, je te quitte ». Et ça marche super bien. Donc, je me suis embêté à faire 3 pages d'écriture. En fait, ça marche mieux en image et en BD. Jacques, je te quitte.
Je me demandais, Michel Bussy, où est-ce qu'on vous lit le plus en France? Parce que j'ai lu que vous étiez spécialiste de la géographie électorale. Donc, j'imagine que quand vous avez les chiffres de vente ou quand vous discutez avec l'éditeur, vous devez savoir où est votre...
Si la Normandie est le bastion.
Ou au contraire, je sais pas, le sud de la France. Est-ce que vous avez une petite vision de ça?
Non, ça, ouais.
Non, ça, je pense pas qu'on ait des chiffres aussi précis que ça. Ah, en tout cas, moi, je les ai pas. Alors oui, évidemment, en Normandie, on me lit. Mais ce qui est quand même vraiment fascinant, moi, je fais quand même beaucoup de petites médiathèques, de beaucoup de petites librairies, etc. C'est qu'on arrive évidemment dans un coin du sud de la France, dans une petite médiathèque, et que là, on a l'impression que presque tout le monde a lu mes livres. Alors peut-être parce que je suis venu aussi, mais c'est assez fascinant parce qu'il y a une vraie richesse de la lecture en France qui est incroyable. Quoi, entre les médiathèques, les librairies, les gamins qu'on emmène dans les médiathèques, les bénévoles, les bibliothèques pour tous, les maisons de la presse, tout ça fait que on a l'impression que tout le monde lit à un moment donné. Et ça, c'est vraiment très rassurant, cette espèce de dynamisme. Et ce qui est génial, c'est que les politiques, souvent au niveau local, quand ils ont plus de sous, ce qu'ils gardent quand même, c'est la médiathèque, c'est la bibliothèque, et c'est ça. Généralement, ils se disent, ça, la lecture, on transige pas, on touche sur d'autres trucs, mais pas la lecture.
Plus de 8 millions de livres vendus, on le sait, mais on sait pas comment vous travaillez. Vous travaillez avec un stylo, avec une plume, avec des post-it, sur un ordinateur, comment fonctionnez-vous?
Ouais, sur un ordinateur, le plus souvent d'ailleurs un ordinateur portable, et je travaille tout le temps. Donc, moi, mes 10 premiers romans, je les ai écrits en étant prof, donc en fait, j'écrivais dans le train, au feu rouge, l'ordinateur sur les genoux. Non, mais ça m'est arrivé de prendre des notes au feu rouge.
En conduisant, ça va pas, non. Il est dangereux, ce mec. Et lorsque vous écrivez comme ça avec des allers-retours entre 20 ans, entre 1999 et 2019, est-ce que vous écrivez d'abord l'histoire de 99, l'histoire de 2019, ou est-ce que vous le faites vraiment au fur et à mesure, manière qu'on le lit?
Non, je l'ai fait enchâssé. C'est-à-dire que moi, j'ai toute l'histoire en tête depuis le début, de façon extrêmement précise dans ma tête, et après, j'écris de façon linéaire, justement pour pas qu'il y ait ces effets de répétition et de soigner ces allers-retours et que un peu comme dans un film, on est en 99 et hop, le moment où on bascule en 2019, il doit être parfait de manière à ce qu'on sente l'émotion.
Il est parfait parce qu'il y a toujours un trait d'union, il y a toujours un lien, c'est soit un tableau, soit une couleur, soit une lumière, soit un personnage, mais on passe de 20 ans en avant, de 20 ans en arrière avec un fondu enchaîné qui pourrait être justement très cinématographique.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc
ça s'appelle J'ai dû rêver trop fort, c'est signé Michel Bussy, c'est déjà un succès en librairie. Bah, entre le temps où on dit Michel, voulez-vous venir, et le moment où il vient, bah, il y a 100 000 exemplaires qui ont été vendus, mais ça fait plaisir de le préciser, c'est aux presses de la Cité. Des excuses à présenter, Daniel Lamora.
Bon, et déjà pour vous, Nagui, le poète qui aurait aimé retrouver les premiers manuscrits de Michel Bussy.
Bah ouais.
Michel, franchement, fait un effort. Nagui est un sentimental, cherchez mieux, il voulait vous les acheter, alors il en prendra grand soin pour mieux les revendre 10 000 fois plus cher, bien sûr.
Évidemment.
Désolé pour Marina Rollman qui, on l'a entendu ce matin de la bouche de Nagui, fine, intelligente, drôle, sincère, bref, elle arrive à faire dans cette émission de bourrin un culte. Franchement, gâcher un tel talent, va faire des blagues chez Trapnard, des sketchs chez Laura Adler. Tu mérites, Marina, tu mérites.
Tu mérites mieux que nous.
Oui, oui, et désolé pour la fille de Michel Bussy, fan de Nagui. Votre papa, je vous le dis, a bien essayé de faire une photo avec votre idole. Il a bien essayé de demander un autographe. Il a essayé de gratter une invitation au prochain Taratata avec Black M et Anne Romanoff. Mais rien, que dalle, peau de zombie. Il a rien voulu lâcher, dit Jay Moubarak. Franchement, Nagui. Ça n'a pas de prix, le sourire d'un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Si, 50 000 euros le selfie. Ah ben voilà, ok. Très bien, maintenant on est au courant.
Mais vous applaudissez ça, vous. Ça va
oui,
pas,
merci, vous avez très bon goût.
Mais ça va pas. Merci Michel Bussy, bravo.
Merci. Merci beaucoup.
Et donc à bientôt, on va se voir avec votre fille, il n'y a pas de problème. J'ai dû rêver trop fort, c'est aux presses de la Cité. Demain, Céline Salette et Romain Duris seront nos invités pour Vernon Subutex. Cette fois-ci, la série et pas le livre.
Avec une grande, grande bande originale aussi.
D'ailleurs. Absolument, oui, beaucoup de musique décidément. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Bonjour.
Eh, j'ai entendu Michel Bussy se met à la guitare, c'est un appel pour passer aussi à Taratata. Ça. Ouais, demain soir, l'affiche Taratata. Mathieu Chédid, Michel Bussy. Ça jette.
C'est vrai que c'est demain soir, merci de le dire Philippe.
22h50. Eh ben, attends, j'annonce le jeu des 1000 euros, je peux annoncer.
Bah oui, j'adore.
Bonne émission.
Bisous les amis. Merci.